Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Alors, bonjour, Sherbrooke. Ce matin, troisième épisode des balados de l'IPS. Je suis en compagnie, en très bonne compagnie, en ce vendredi, de trois personnes qui connaissent bien la douleur, notre sujet du jour. Puis d'ailleurs, si vous trouvez votre vendredi douloureux, ben ça tombe bien. C'est de ça qu'on parle ce matin. Alors, je vous souhaite la bienvenue, chers collègues, parce que c'est mes collègues de l'Institut de pharmacologie. Donc, j'ai avec moi le professeur Philippe Sarret, qui est également le directeur de notre bel Institut de pharmacologie de Sherbrooke ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Et j'ai avec moi un étudiant aussi à la maîtrise en chimie. Oui?
Au doc.
Pardon. Au doc en chimie avec Pierre-Luc Boudreau, également, là, qui est membre de l'Institut. Et Jérôme Côté, qui est professionnel de recherche pour le laboratoire du professeur Philippe Sarret, mais également un homme très impliqué aussi du côté de la vulgarisation scientifique pour le Centre des neurosciences de Sherbrooke. Alors, aujourd'hui, je vais premièrement vous demander un petit peu de vous présenter pourquoi vous êtes là par rapport à la douleur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes assis ici ce matin? Pourquoi je vous ai invité pour parler de ça avec nous? Alors, commençons par à droite. Philippe, pourquoi t'es concerné par la douleur?
Ah, je croyais que t'allais me poser la question de ça, pourquoi j'étais là aujourd'hui. Parce qu'on a été invité.
Parce que vous m'avez obligé à être là.
Donc, en fait, la douleur, je pense que c'est un sujet très important à l'heure actuelle. On reviendra probablement sur un sujet d'actualité qui est la crise des opioïdes. Moi, je m'intéresse particulièrement à la neurophysiologie de la douleur, donc les mécanismes de régulation de la douleur et évidemment, au travers de ça, de développement de nouveaux médicaments analgésiques pour traiter les différents types de douleurs.
OK. Donc, vraiment, au niveau de la création de nouvelles molécules pour essayer de chasser cette douleur-là qu'on n'aime pas vraiment, finalement?
Exactement. Bien comprendre que chaque douleur est unique. Donc, il y a des douleurs qui sont plus résistantes à certains analgésiques. Donc, trouver des alternatives au traitement actuel.
Quand on parle d'analgésique, juste pour préciser, est-ce qu'on parle pas de Tylenol, là? On parle de quelque chose de plus fort, là, je pense. Là. Qu'est-ce que ça
veut dire? Il y a une gradation hein, dans l'évaluation et puis dans le traitement de la douleur. Donc, les Tylenol, effectivement, on peut les utiliser lorsqu'on a une petite douleur, mais progressivement, on va utiliser des analgésiques qui sont un peu plus forts progressivement en fonction du type de douleur. Si on va vers une douleur inflammatoire, une douleur neuropathique, une migraine, donc on va prendre des traitements différents en fonction du type de douleur.
Puis on va voir tantôt qu'il y a des traitements qu'on appelle les opioïdes qui sont pas mal l'espèce de Cadillac pour la douleur, justement, qui sont vraiment très efficaces, mais qui ont d'autres downsides aussi, d'autres mauvais côtés. Merci, Philippe.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Tu es un homme très occupé, là, directeur de l'Institut, tout ça, mais on est chanceux de t'avoir avec nous ce matin. Du côté de Michaël Dégagné, donc, qui est étudiant au doctorat, pardon. On dirait que j'arrête pas de me tromper. Je sais pas pourquoi. en chimie, donc médicinale, avec Pierre-Luc Boudreau, qu'on connaît bien pour ses capacités justement à modéliser des molécules, faire des modèles vraiment, comment dire, très efficaces.
Informatique, oui.
Oui, exactement. Puis toi, qu'est-ce que c'est là, ton projet au doc justement? On en a un petit peu parlé dans ton portrait hier, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus, Michaël?
En fait, je suis co-dirigé par Philippe Sarret aussi. Puis je travaille, dans le fond, sur la deuxième étape du traitement de la douleur, qui est la création de molécules. Fait que lui, il essaie de comprendre les mécanismes, puis moi, j'essaie de les traiter, dans le fond. Fait que je suis chimiste médicinal. En fait, je pratique la chimie médicinale, je crée des molécules, je design des molécules. Puis après ça, ben, grâce au labo de Philippe Sarret, on peut les tester chez les animaux, on peut les tester, puis savoir à quel point ils sont efficaces ou pas.
OK. Puis là, toi, tu parlais de rapetisser la neurotensine dans ton portrait. Pourquoi on veut la rapetisser? C'est quoi l'objectif de rapetisser des molécules, par exemple, dans le traitement de la douleur?
Ben, cette molécule-là est sécrétée dans le corps. Ce qui fait qu'en fait, son profil d'absorption est quasiment nul, parce qu'il est sécrété directement dans ton corps. Mais quand on fait des médicaments, on veut pas, ils sont pas sécrétés dans ton corps, il faut les prendre de façon orale.
Ouais.
Puis les règles qui permettent de prédire l'absorption des médicaments, donc à quel point est-ce que prendre les médicaments dans ta bouche va l'amener dans ton sang, ben c'est très régi par la grosseur de la molécule, entre autres.
OK.
Fait que moi, mon but, c'est vraiment de réduire la grosseur de la molécule pour m'assurer qu'elle est possiblement absorbable de façon orale.
Parce que si je comprends, la neurotensine, c'est quelque chose qui est actif naturellement dans notre corps. Puis c'est ça que tu dis, c'est sécrété par notre corps. Fait que là, en faisant la molécule, on fait comme une façon, d'une façon artificielle cette molécule biologique-là pour qu'elle soit... Pourquoi? Pour soit l'augmenter, la diminuer? Qu'est-ce qu'elle a comme rôle, cette neurotensine-là, justement?
Généralement, en fait, elle est sécrétée quand on mange des diètes hautes en gras.
Ah! Ouais. McDo, non?
Oui.
Okay.
Et pas nécessairement impliquée directement dans la douleur, mais aussi dans le métabolisme des gras. Puis, en fait, quand on l'injecte en grande quantité dans la colonne vertébrale directement, c'est très analgésique. Donc, pour nous, c'est une manière, dans le fond, de pouvoir utiliser la nature un peu à notre escient puis pouvoir créer des molécules à partir de là.
Parce qu'on dirait que moi, quand je pense à neurotensine, je ne sais pas, les gens qui nous écoutent à la maison, moi, je pense à de la pression, de la haute tension, de la, je ne sais pas, tu sais, quelque chose comme ça. C'est-tu impliqué aussi, la neurotensine, dans la haute pression?
Il y a un bon rôle au niveau cardiovasculaire de la neurotensine.
OK, c'est
puis
ça.
Je pense que tu penses au système angiotensine, entre autres, qui est très impliqué dans la tension. Là.
OK.
Fait que oui, c'est un peu le même mot. C'est pour ça qu'on se mélange entre les deux.
Fait qu'une même affaire, ben, c'est pas la même affaire, là, si je comprends. Mais
c'est pas
neurotensine,
affaire,
c'est du côté de la douleur, vraiment.
Ben, entre autres, mais aussi plusieurs autres effets physiologiques. Puis okay. Une partie du projet, c'est aussi de spécifier cette molécule-là spécifiquement pour la douleur. Puis espérer éviter les effets secondaires cardiovasculaires, entre autres.
OK, OK. Ben merci, c'est super intéressant, puis ton projet. On pourra en reparler peut-être plus tard dans l'émission.
Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose?
Ben oui, vas-y.
Je trouve ça intéressant. Alors, tu sais, la neurotensine, c'est une molécule qui va... Puis c'est vrai pour la majorité des molécules qui sont utilisées, là, c'est des molécules qui vont cibler quelque chose de précis dans ton corps, un récepteur, quoi que ce soit, sans rentrer dans les détails. Là. Fait que ce que Michael disait, c'est que... Faut atteindre cette cible-là dans le corps. Fait que quand la molécule est synthétisée dans notre corps puis qu'elle est produite par notre corps, ben souvent la cible est juste à côté puis c'est pas compliqué. Quand on prend une pilule,
ouais.
C'est différent. Là, dans le cas de la douleur, nous autres, on essaie d'atteindre une cible qui est au cerveau, entre autres, au niveau de la moelle épinière, dans le système nerveux central, finalement.
Puis là, t'as la barrière hématoencéphalique.
Entre autres, oui. Donc, si on veut que la molécule que Michael synthétise se rende à la cible pour faire son action, qui est de réduire la douleur ultimement, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, là, ben, il faut qu'elle puisse être. Qu'elle puisse passer de la pilule jusqu'au cerveau. Fait qu'il y a tout un trajet, tu sais. Il y a l'estomac, faut que ça soit absorbé dans le sang, que ça soit distribué dans le système cardiovasculaire, puis que ça soit que ça traverse la barrière hématoencéphalique jusqu'au cerveau pour atteindre sa cible.
Mm-hmm.
Là, il va y avoir une action. C'est vrai pour toutes les molécules, au final, tu sais.
Puis je pense que, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, l'estomac, c'est comme pas un bon voyage pour une molécule, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup d'acide là-dedans.
Ça dépend lesquels. Puis, tu sais, souvent, les pilules sont coatées, sont enrobées de quelque chose qui les protège aussi pour pas qu'ils soient dégradés dans le pH acide de l'estomac. Là.
Okay.
Mais toutes sortes de stratégies comme ça qui sont utilisées en pharmacologie pour que ça soit pas justement dégradé là. Mais il y a plein d'autres freins, disons, à l'acheminement d'une molécule à sa cible. Tu sais, le foie va dégrader la grande majorité des molécules aussi parce que quand c'est absorbé par voie gastro-intestinal, quand on le prend sous forme de pilule, ça va passer par le foie. Puis dans le foie, il y a plein d'enzymes qui dégradent les molécules. Fait que là, t'en perds une grosse batch déjà en partant. Là.
C'est ce que votre docteur veut dire quand il dit que votre médicament est métabolisé par votre foie.
Oui, mettons, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Ben, c'est bien parce que ça aide aux gens à comprendre un peu parce que les médecins nous disent des choses comme ça des fois puis on est comme, OK, c'est correct que ce soit métabolisé par mon foie finalement, mais oui.
Ben, on n'a pas le choix non plus, tu sais.
Puis si on reste sur le foie, par exemple, c'est important de réaliser que dans le cas de la morphine, par exemple, il y a des patients qui sont non répondants à la morphine.
Oh.
Et ça, c'est dû en partie au fait que la morphine n'est pas métabolisée de façon correcte par ces patients-là. Donc, ils n'ont pas les enzymes pour métaboliser la morphine.
La codéine, ouais. Ça, non? C'est pas le cas de la codéine?
La codéine aussi.
Ah, la codéine est dégradée en morphine.
Ouais.
Donc, si les gens, dans leur foie, n'ont pas l'enzyme particulière, parce que je pense qu'il y a 5 à 10% de la population qui ont une mutation dans le gène qui fait que l'enzyme n'est pas présente dans le foie, fait que la molécule ne sera pas métabolisée en morphine, donc tu prends de la codéine strictement pour rien, finalement.
Okay.
Chez ces patients-là, ça ne fonctionnera pas.
Parce que moi j'avais vu, ben, j'ai fait des tests chez Biogénique, moi j'étais bien curieuse de ça, puis ils regardent un peu la génétique dans les cytoplasmes, c'est-tu les cytoplasmes dans le foie ou
cytochrome, quoi?
Cytochrome, oui, ouais. C'est ça, les cytochromes, pour savoir justement si on est résistant à certaines formes d'opioïdes pour la douleur ou pour les maladies cardiovasculaires, d'autres médications, ou même pour les maladies comme la dépression, l'anxiété, tout ça. ça. Puis, ça a rapport avec les cytochromes, mais c'était super intéressant de voir qu'avec la génétique, là, on rentre dans d'autres choses, mais je ne m'égarerai pas trop longtemps, mais qu'on peut savoir si un patient va être résistant à la morphine.
Ouais, c'est de ça qu'on parlait. Finalement, les cytochromes, c'est juste le nom scientifique pour les petites enzymes qui dégradent les molécules dans ton foie, finalement.
OK, fait que c'est moi qui n'aide pas, finalement. Ouais. Là, je dévulgarise. Non, c'est mais c'est intéressant, par exemple, si les gens ne connaissent pas ça à la maison, Biogénique, qui est une entreprise qui permet de savoir tout de suite, dès le départ, si on va être résistant, à place de prendre ça pour rien, comme Jérôme disait.
En gros, de façon générale, ça veut juste dire qu'il y a une grande variabilité interindividuelle dans la réponse aux médicaments. Mm-hmm. C'est juste normal, fait que ça ne va pas fonctionner nécessairement très bien chez tout le monde.
Non, exactement. Puis ça, on pourrait peut-être en parler dans un autre épisode, parce qu'on a Karine Tremblay au Saguenay qui s'intéresse beaucoup.
C'est exactement ce que j'allais dire. Tu pourras faire un entretien sur la pharmacogénomique spécifiquement.
Ça, c'est sûr et certain. Je vais la faire descendre du Saguenay juste pour ça. C'est super intéressant aussi. Mais si on continue dans notre sujet à nous, la douleur, j'aimerais ça que, premièrement, qu'on distingue deux douleurs, parce qu'on en parlait avant d'entrer en onde. Jérôme, il y a la douleur qui est aiguë, puis il y a la douleur qui est chronique. Puis il y a beaucoup de gens, mais souvent, les plaintes qu'on a le plus, c'est des douleurs chroniques, évidemment, parce que ça dure des mois, des années, puis on s'en débarrasse jamais. C'est quoi la différence, vous pouvez toutes me répondre si vous voulez, entre une douleur aiguë et une douleur chronique, puis comment ça se passe dans le corps?
Ben, si tu veux, je prends la plus facile, la douleur aiguë, puis je passe la poque à Philippe après pour la douleur chronique.
Ça va-tu? C'est bon.
La douleur aiguë, dans le fond, ben, moi, j'aime bien je donne des exemples à des plus jeunes aussi pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, quand on parle des cinq sens à des jeunes de la maternelle, là, bon, on dit, entre autres, le toucher, Louis, en tout cas, le toucher, là, la douleur, c'est là-dedans. Là. Quand tu touches, quand tu ressens ton environnement par la peau, finalement, qui est l'organe principal, presque le plus important de notre corps, bien, on ressent les choses autour de nous.
Okay.
Quand la stimulation est intense, plus que juste toucher avec la main ou toucher avec un morceau de vêtement, quoi que ce soit, ou le froid et le chaud, quand la stimulation devient plus intense, bien là, on active des neurones qu'on appelle des nocicepteurs, qui sont des neurones qui sont là pour détecter les stimuli qui sont potentiellement dangereux.
Fait que les nocicepteurs, c'est une sorte de neurone.
Oui, c'est ça, okay. Finalement. Ou des terminaisons nerveuses dans ta peau, qui sont là pour détecter les stimuli qui sont potentiellement dangereux, qui vont te générer donc de la douleur dans ton cerveau.
Okay.
Fait qu'on donnait un exemple avant de rentrer en onde, quand tu te cognes la petite orteille sur le coin de la table. Ça fait mal. Bon, c'est
parce table, là, t'es vraiment mal pris, là? Le pied de la table.
Ouais, la patte de la table. Bon, la chaise, qu'est-ce que tu veux, là? Mais. Ça pour dire que ça, si ça génère une douleur, c'est parce que t'es pas supposé de faire ça. C'est une douleur qui, en tout cas, est tannante, celle-là. Là, mais ouais. Je donnais aussi l'exemple de quand tu mets ta main sur le rond du poêle. Un bébé va mettre sa main sur le rond du poêle chaud.
Merci, président, bébé.
normalement, nous, on le fait pas parce que peut-être qu'on l'a déjà fait une fois. On s'est brûlé, on a retiré notre main rapidement. Si on n'avait pas eu de douleur, on aurait peut-être laissé notre main là longtemps, puis on se serait brûlé la peau pas mal plus intensément, puis ça aurait fait plus de dommages. Mm-hmm. Puis là, y a tout l'aspect de la mémoire aussi. On apprend que c'est douloureux, cette affaire-là, puis au final, on le fait plus après parce qu'on sait que ça va faire mal. Mais sinon, on parlait aussi de la guérison d'une blessure. Tu te casses un bras, par exemple, tu vas être dans le plâtre pendant un mois, mm-hmm. puis ça va te faire mal, ton bras, quand tu vas essayer de le bouger pendant tout ce mois-là. Puis là, on pourrait se dire, ça sert un peu à rien, pourquoi ça me fait mal si longtemps, tu sais. Mais au final, tant que tu seras pas guéri, ton corps t'envoie des signaux qui te disent, bouge-le donc pas ton bras parce que il est en train de guérir puis il est pas tout à fait guéri encore. Okay. Pas, tu le rebrises finalement.
Fait qu'on est intelligent, finalement. Notre corps est intelligent.
C'est bien fait. C'est bien fait. C'est ça, exact.
Puis même chose quand on s'entraîne au CrossFit, mettons, t'es un petit peu trop fort, puis que là, on a mal au pec, là.
Le monde y aime ça en général. Là. Ça veut dire qu'ils se sont bien entraînés, mais oui, ça veut dire que tu as causé du dommage à tes muscles.
Des déchirures, des micro-déchirures.
C'est ça, exactement. Mais ça, toute cette douleur-là aiguë, puis je passe la poque à Philippe après, c'est de la douleur qui est utile. C'est un signal d'alarme pour ton corps. C'est quelque chose qui est là pour te protéger.
C'est là que le CrossFit, tu sais. Avant de te déchirer le muscle.
C'est pendant une journée ou deux, disons.
C'est ça. Ouais, jusqu'à temps que. C'est ça. Tu y prends plaisir, mais bon.
C'est bon.
Puis après, il y a la douleur chronique, ça c'est autre chose.
Ça c'est la chose qui est, contrairement à ce que disait Jérôme, c'est la chose inutile, entre guillemets, parce qu'effectivement, quand on a une douleur aiguë qui se transforme en douleur chronique, et puis ça, je pense que c'est un point important qu'il faut souligner, c'est que, à l'heure actuelle, évidemment, on va parler des opioïdes et de la crise des opioïdes, mais en termes de traitement de la douleur, c'est important quand on a une douleur aiguë, quand on vient d'avoir une chirurgie, par exemple, et qu'on est en période post-opératoire, de bien traiter cette douleur-là de façon appropriée pour justement éviter que notre douleur aiguë se transforme en douleur chronique.
Okay.
Alors souvent, quand on parle de douleur chronique, on parle d'une douleur qui persiste pendant un certain temps. En général, on parle de 2 à 4 mois donc qui va perdurer. Mais cette douleur-là, quand elle s'installe, il y a de grandes chances qu'on la garde toute notre vie. Et c'est que c'est important, justement, de la traiter en amont. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que disait Jérôme, quand on a une stimulation thermique ou mécanique quand on se cogne quelque part ou on met la main sur une plaque chaude, bah ça c'est ça active les nocicepteurs très périphériques. Quand on parle de douleur chronique, là on parle d'une centralisation de du mécanisme de régulation de la douleur, et donc là on touche au centre supérieur, on touche à la moelle épinière, on touche au cerveau, donc il y a une on parle de plasticité, de neuroplasticité, mm-hmm. donc notre cerveau change, ce qui fait que la douleur devient chronique, et puis on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça qui est important de comprendre.
Pour toutes les douleurs, ça?
Pour pas mal toutes les douleurs chroniques.
Comme genre des lombalgies, mettons?
Oui.
Ouais, j'en ai une. Fait que je l'ai toute ma vie, c'est ça que tu me dis?
On peut atténuer le phénomène, mais... c'est assez rare que les gens
ça veut pas dire que tu vas en souffrir nécessairement toute ta vie. Tu sais, ça se traite, ça se soigne. Il y a plusieurs façons. On a parlé de pharmacologie, mais il y a plusieurs autres types de traitements non pharmacologiques qui peuvent aider aussi.
Le fentanyl de rue, tu sais.
Ah non, ça c'est de la pharmacologie encore.
Mais ça va nous amener, ben je sais pas si tu avais autre chose à ajouter,
non, c'est Philippe,
beau. Mais ça va nous amener sur notre terrain aujourd'hui un peu plus sociétal, si on veut. Je voulais qu'on parle un peu de cette crise-là des opioïdes, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est assez présent. En particulier, au début, c'était beaucoup dans l'Ouest canadien. Il y avait quand même une grosse problématique de ce côté-là. Mais là, c'est rendu un peu partout, à Montréal, tout ça. Pouvez-vous me dire un peu comment vous voyez ça, vous, en tant que scientifique qui œuvre dans la douleur, cette crise-là? Peut-être, Michael, ça fait un bout qu'on t'a pas entendu.
Moi, je commence à avoir la voix enrouée. la crise des opioïdes, avant tout, c'était pas dans l'Ouest canadien, c'était plutôt dans les États-Unis que ça a été problématique.
OK. Je pensais dans ma tête en Colombie-Britannique, je sais pas pourquoi.
Peut-être aussi là-bas, c'est très possible. Puis, ça fait quand même longtemps que les compagnies pharmaceutiques ont un peu abusé de des prescriptions, entre autres, d'oxycontin, qui est un opioïde, en fait, qui est dans la classe de la morphine, qui est dans la même classe que l'héroïne, puis toutes les autres molécules similaires. Puis, ces molécules-là sont extrêmement bonnes à combattre la douleur. Le problème, c'est qu'ils sont très addictifs aussi, puis ils ont des effets psychoactifs, ce qui fait que ça peut être pris comme drogue récréative aussi. Là.
Okay.
Puis ben, tous ces problèmes-là ont comme pendé à créer une addiction de la société, dans le fond. Puis ben, c'est un peu ça que j'essaie de combattre aussi avec mon projet.
Okay.
On a parlé tantôt du système neurotensinergique. Le système neurotensinergique semble pas avoir d'effet psychoactif, semble être beaucoup moins addictif. Donc, ça serait une manière pour nous de pouvoir essayer de remplacer ces opioïdes-là, puis que un peu les faire disparaître petit à petit.
C'est un début de la pharmaco, la chimie médicinale, là, ils travaillent en complément, là, on l'a dit tantôt, d'essayer d'éviter que les prochaines molécules sur le marché soient psychoactives, comme tu dis, ou qui génèrent de la dépendance chez les personnes qui en prennent, finalement. Donc, c'est intéressant que ton projet s'intéresse à ça, parce que c'est vraiment inquiétant quand on regarde un petit peu les nouvelles par rapport à ça. Là, il y a des drogues de plus en plus résistantes. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de ça ici. Là, moi, je ne pourrais pas dire laquelle, mais il y a comme une nouvelle drogue qui est arrivée sur le marché noir, là, si on veut, qui fait en sorte que même il y a un médicament qui est utilisé pour renverser, mettons, une overdose de...
L'naloxone.
Un Narcan, qui appelle aussi.
Oui, il y a comme une nouvelle drogue qui est comme résistante à ça, que ça ne marche pas. Fait que si tu fais une overdose de ça, ben, t'es mort, mainly.
Oui, il y a un risque particulier, en fait, pour ça. Quand on parle de la crise des opioïdes, on parle souvent maintenant de mélange de fentanyl. Donc, quand on parle de fentanyl, on parle d'un opioïde qui est 100 fois plus puissant que la morphine en termes d'efficacité analgésique. Mais souvent, c'est combiné avec de la xylazine, par exemple, carfentanil, mm-hmm. qui sont utilisés en médecine vétérinaire.
Oh my God.
Et on vient de parler du naloxone. Bah, effectivement, le naloxone est capable de réverser les effets de la morphine ou du fentanyl, mais n'a aucun effet sur le carfentanyl ou sur la xylazine qui est utilisée en médecine vétérinaire. Et c'est ça qui est très dangereux, parce que on parle pas ici d'une addiction en tant que telle. Les patients peuvent en mourir dès la première dose d'administration, parce que quand on parle de carfentanyl, c'est 100 fois encore plus puissant que le fentanyl. Donc on parle de 10 000 fois la force de la morphine. Donc il y a un risque, c'est utilisé en médecine vétérinaire, mais d'amener ça chez les gens dans la rue, c'est un risque majeur. Et puis, juste pour mentionner, je voyais des chiffres il n'y a pas très longtemps, on a eu au Canada 35 000 décès dans les 7 dernières années reliés à la crise des opioïdes.
Wow.
C'est quand même énorme. Et puis, avec quelque chose dont on a un peu entendu parler dans les dernières années, on a parlé de la COVID, ce phénomène s'est amplifié dû à l'isolement, dû aux problèmes d'anxiété ou de dépression psychologique. Donc, c'est un problème pour les prochaines années.
Peux-tu ajouter quelque chose? Je pense qu'on est en train de faire peur aux gens qui ont de la douleur chronique, qui ont prescrit des opioïdes. C'est dangereux. Là, on parle beaucoup de drogue de rue présentement.
Ouais,
c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est les mêmes molécules, mais ça peut être mélangé de différentes façons avec d'autres drogues. Ça peut être du dosage pas contrôlé. Là, ça peut être plus dangereux. Dans le cas d'un traitement pharmacologique pour la douleur chronique, oui, on utilise des opioïdes. Oui, ça marche pas tout le temps. Oui, il y a des effets secondaires, mais c'est contrôlé en général. Puis c'est même bien de les utiliser pour traiter sa douleur, comme Philippe l'a énuméré tantôt, là, pour prévenir, entre autres, l'installation des douleurs chroniques ou autres.
Mais les patients peuvent décider de ne pas prendre la bonne dose, par exemple.
C'est ça qui peut être dangereux. Il faut que ça soit suivi pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il se développe une tolérance quand on utilise les opioïdes, c'est-à-dire que ton corps s'habitue à prendre la dose que le médecin t'a prescrit, ce qui fait que t'es plus soulagé par cette dose-là après un certain temps quand tu la prends tous les jours. Ce qui fait que là, tu as le goût d'augmenter ta dose pour retrouver cette analgésie-là. Puis là, ça se fait de façon perpétuelle comme ça. T'augmentes ta dose parce que tu deviens tolérant, puis tolérant, puis tolérant. Ce qui fait que là, tes effets secondaires sont plus marqués après. Ouais. Puis là, ça peut devenir dangereux, bref. Fait que c'est
et
juste
là,
une
tu
petite
peux avoir...
parenthèse, là, mais...
Et là, tu peux développer une dépendance physique et psychologique.
Aussi, ouais.
Mais si c'est fait dans un encadrement médical, c'est tout à fait sécuritaire d'utiliser les opioïdes.
Puis je me questionnais, peut-être pour les gens aussi qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont plus à risque de devenir dépendants? Est-ce qu'on peut déterminer ça? Est-ce qu'un médecin, par exemple, peut se dire « cette personne-là, c'est peut-être pas une bonne idée de donner des opioïdes parce qu'il y a des bons risques, je sais pas, j'ajoute aux machines à sous, je sais pas, là, d'autres dépendances. » Puis là, tu te dis, il y a des risques que cette personne-là, ça dégénère son affaire. Est-ce que ça, c'est peut-être pas dans votre tâche? Je sais pas.
On est clairement pas les spécialistes pour ça. On n'est pas les prescripteurs non plus,
non,
les cliniciens qui rencontrent les patients, mais clairement, ce genre de choses-là est évalué chez les patients. C'est-à-dire que c'est du cas par cas, le type de molécule, l'encadrement dont on parlait va déterminer en fonction de tel ou tel patient. Je pense que c'est important.
OK. Puis les opioïdes, dans le fond, ce que tu me dis, Jérôme, si je comprends, c'est que c'est pas evil, les opioïdes. Ça peut être utile dans certaines situations. Mais
c'est pas parfait non plus. C'est pour
c'est
ça que Michael est là, entre autres, pour travailler sur des alternatives. Non, mais
les
les opioïdes fonctionnent pas à 100% chez tout le monde. Il y a plein de monde qui sont pas soulagés par les opioïdes quand ils ont de la douleur chronique.
Dépendamment du type de douleur
Du type de douleur, de l'âge, du sexe, de plein d'affaires. Les opioïdes vont pas nécessairement fonctionner. C'est pour ça que des fois, il y a des combinaisons de traitements. Ça peut être avec des antidépresseurs, des anticonvulsivants ou d'autres choses. Ça peut être avec d'autres types de traitements qui sont non pharmacologiques, comme de la physiothérapie ou autre. Donc, c'est ce genre de combinaison de traitements-là qui peut finalement aider à soulager une douleur chronique qui est vraiment difficile à soulager au final, là, puis qui peut perdurer longtemps, comme l'a dit Philippe tantôt.
Puis là, tu parlais de Michael, justement, les chimistes médicinales qui viennent essayer de trouver des alternatives. Je sais qu'il y avait aussi... J'avais parlé avec Jade de Grand-Maison, qui était une de nos étudiantes chez Louis Gendron, qui, elle, s'intéressait au delta-opioïde, je crois, qui était un autre récepteur, justement, qui créait moins de dépendance aussi. Donc, il y a plusieurs alternatives qu'on est en train d'essayer de travailler pour pouvoir créer des molécules qui sont moins addictives.
Oui, entre autres, il y a aussi le système cannabinoïde, entre autres, qui est très investigué pour la douleur. Il y a plusieurs canaux sodiques aussi qui rentrent dans la signalisation de la douleur aussi, qui sont en train d'investiguer pour ça, puis dont des molécules qui sont sur le marché aussi. Fait que, tu sais, on parle de neurotensine, on parle d'opioïdes, mais il existe plusieurs autres alternatives aussi qui sont en train d'être recherchées. Puis...
Ouais. C'est ça l'intérêt de la neurophysiologie, finalement. Tu sais, quand Philippe disait qu'il était prof en neurophysiologie, c'est de comprendre comment la douleur chronique s'installe, se perpétue dans le temps, comment ça fonctionne, cette plasticité-là du cerveau. Puis là, en étudiant ça au niveau moléculaire, on peut comprendre que tel ou tel récepteur est impliqué, que tel canal est impliqué, que telle protéine, que telle enzyme est impliquée. Puis après, on peut dire, ben on va targeter ça. Ça, c'est un problème. On va cibler cette molécule-là, cette protéine-là, ce canal-là, avec une molécule que le labo va synthétiser pour essayer soit de l'inhiber, de l'activer ou quoi que ce soit. C'est ça, faut comprendre le phénomène, puis après, on peut cibler quelque chose qui va permettre d'endiguer le problème, finalement.
C'est pour ça que je suis l'étape 2, dans le fond.
Oui, c'est ça, parce que... oui, vas-y, Philippe.
Oui, peut-être une chose pour ajouter. Je pense que ce qui est important de réaliser, c'est que l'idée, c'est pas de remplacer du jour au lendemain les opioïdes. Ah. C'est de trouver des traitements alternatifs. Et puis la possibilité, on parle quelquefois de rotation des médicaments de façon à alterner un traitement, par exemple, opioïde avec un traitement non-opioïde. Et puis ce que mentionnait Jérôme sur le fait que les gens peuvent développer une tolérance ou une dépendance, si on est capable d'alterner ces traitements-là, ben, on va pas être obligé de donner une dose plus élevée de morphine, donc on va pas développer de tolérance et donc pas de dépendance. Donc l'idée ici, là, c'est pas de remplacer les opioïdes du jour au lendemain, c'est de proposer des alternatives de traitement, des combinaisons et puis la possibilité de traiter des types de douleurs qui sont résistantes aux opioïdes.
Oui, c'est vraiment intéressant parce que puis ça me fait, moi je fais des petits liens dans mon cerveau, mais tu sais j'ai eu des gens en biologie aussi qui sont venus en entrevue lors de pour les antibiotiques, puis ils disaient justement c'est ça que c'est un peu le serrurier, je pense que vous aimez beaucoup ça en pharmacologie de dire tu sais t'as comme les gens comme du côté de Martin Audet qui vont plus comprendre la serrure dans notre corps, essayer de comprendre comment est faite cette serrure là, du côté de Pierre-Luc tout ça c'est plus ils vont limer la clé, ils vont essayer de trouver la clé pour qu'elle fitte le mieux possible dans cette serrure. Là. Puis après ça, on a du côté de Philippe, tu sais, Jérôme, tout ça, ben, c'est les serruriers en chef, si on veut, qui testent la clé. Qui vont dire,
nous autres, on cherche un peu c'est quoi la serrure qu'il faut cibler finalement. Laquelle des serrures est impliquée dans le phénomène.
Donc, vous trouvez la bonne clé.
Ouais, c'est ça.
Après, on cherche la bonne clé. Ouais, c'est ça.
Vous êtes comme au début, puis à la fin du processus, si on veut. On cherche la bonne clé. Après ça, on étudie cette serrure-là.
Ça, c'est un bon point. C'est un point d'itération, parce que c'est un travail continu. C'est-à-dire les chimies,
En sciences fondamentales, vous faites de l'itération. Hey, là, je vais te dire que la fille en sciences sociales est impressionnée.
Ça n'a peut-être pas la même définition, par exemple.
Non, nous, c'est plus, on verra. On va aller voir là-bas.
L'idée, c'est justement. On va de la chimie, on fait la validation in vitro ou in vivo, mais on revient après au point de départ pour améliorer en fait le processus au niveau de la chimie. Donc c'est un processus de collaboration. On parle beaucoup de relations entre les différentes équipes. Ben, ça, c'est un très bon exemple d'intégration des différentes expertises.
C'est plutôt rare que je fais la meilleure molécule du premier coup. C'est plutôt rare que je suis chanceux comme ça.
Ce serait comme un coup de chance, comme un peu une 649.
C'est ça, puis je ne suis pas bien chanceux dans la vie. Fait que, après avoir testé pharmacologiquement ces molécules-là, ben, moi, je prends les résultats, je les compile, puis je peux savoir après ça désigner une meilleure molécule par la suite. Donc, ouais. Comme je disais, c'est itératif, c'est cyclique. On travaille toujours en équipe.
Oui, parce que si je peux me permettre de rappeler ça aux auditeurs aussi, tu sais, la création d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle molécule, en fait, qui est disponible sur le marché, ça peut prendre entre 10 et 15 ans. Actuellement, c'est très, très long. Corrigez-moi si je me trompe. Puis ça coûte très, très cher. Puis ça implique énormément de gens aussi. Donc, tu sais, les personnes un peu sceptiques sur les médicaments, dites-vous qu'il y a eu un très, très long processus avant que ça arrive dans votre petit sac blanc à la pharmacie. Ici, les gens qui sont là, c'est des gens de fondamentales. Ça veut dire qu'on n'est même pas rendu proche de la clinique. Là. Donc, on est en train d'explorer des nouvelles molécules. Alors, je voulais juste.
Courage-nous pas quand même. On est assez proche de la clinique. Là.
Oui, mais je veux dire, dans le sens que, tu sais, on n'est pas encore. Vraiment.
On n'a pas touché aux humains encore.
Exactement. Fait que, tu sais, c'est quand même un processus qui est long, qui est très rigoureux aussi, puis qui est régi par des instances comme Santé Canada, là, justement, qui vient. Tout ça. Donc, je voulais juste le répéter. Je le répète à chaque émission aussi pour que les gens comprennent bien que. Parce qu'il y a quand même un certain scepticisme dans société actuellement sur les médicaments, tout ça. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est des processus sérieux puis que c'est pas juste des gens qui veulent faire la pièce. C'est des gens qui veulent justement amener un médicament sur le marché qui va être le plus sécuritaire possible. Puis je pense que ça fait partie un peu des tests que vous faites aussi au niveau fondamental, avant même que ça arrive sur l'être humain.
Donc, c'est un processus qui évolue aussi. Là. Il y a eu beaucoup de problèmes par le passé. On peut penser entre autres à la thalidomide. Ces molécules-là créent des déformations chez les enfants puis on s'en est pas rendu compte à temps.
Fait que
je comprends le scepticisme.
C'était pour les nausées, pour les femmes enceintes, ça?
Oui, c'est ça.
Et puis même la problématique, tu l'as mentionné au début, Michael, avec l'oxycodone, l'oxycontin.
Même chose, ouais.
Bon, Purdue a développé cette molécule-là. Ce qui est triste, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des risques d'addiction. Et puis ça n'a pas été signalé dès le départ. Peut-être que le médicament aurait été utilisé de la même façon, mais on aurait été conscience des risques qu'il y avait associés à cette molécule-là. Et ça vient... je pense que ça, c'est un réel problème, même pour les scientifiques, après, quand ce genre de choses arrive, de convaincre le grand public que les molécules qu'on développe, on les fait dans un intérêt thérapeutique et pas financier uniquement.
C'est ça, mais c'est important de répéter le message, de le marteler. C'est sûr qu'il y a des... Malheureusement, il y a des erreurs qui se font, mais comme là, je pense à Claude Legault du côté du département de chimie ici sur le campus principal, puis il disait justement que cette médication-là là, qui avait causé des malformations, ça nous a appris de ne pas faire des trucs symétriques, je pense. Quelque chose que, si je me rappelle, c'est comme... peut-être tu peux me corriger, là, mais...
Oui, en fait, la molécule changeait vers une molécule toxique dans le corps.
Ouais. C'est ça.
Fait qu'on n'a pas considéré le métabolisme, puis ça a fait que... Ça faisait le mauvais isomère, puis c'est toxique.
Isomère, c'est ça. Mais fait qu'on fait plus ça. Ou en tout cas, plus beaucoup. Là. Mais cette molécule-là est encore utilisée.
Pour vérifier, en tout cas.
Mais la molécule dont vous parlez est encore utilisée pour les gens qui font de la chimio, je crois, pour les nausées, parce qu'elles ne sont pas enceintes. Là. C'est vrai, la problématique, c'était vraiment au niveau de, des femmes enceintes. Là, il nous reste environ une minute et demie, à peu près. Je voulais vous entendre peut-être sur, pour vous, mettons, dans la douleur, c'est une thématique de recherche. Pour vous, c'est quoi, mettons, le gros goal pour les prochaines années, les prochaines décennies, mettons, qu'est-ce qu'on voudrait accomplir par rapport à cette thématique-là de recherche en santé? Je commence par toi, Jérôme.
Ben, tu connais mes intérêts, là. Moi, je dirais que c'est éduquer. faire comprendre aux gens, expliquer aux gens. Ouais. Au-delà de la pharmacologie, je trouve ça super intéressant, la pharmacologie puis la neurophysio, mais je pense qu'en tant que... Je suis pas patient, mais en tant que patient, en général, je pense que tu es mieux équipé pour t'aider, pour te traiter si tu comprends ce qui se passe.
Ouais.
Je dirais éducation.
Ah, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Tu connais mes intérêts aussi. ma maîtrise est un petit peu sur ce sujet-là. Puis toi, Michael, qu'est-ce que tu espères en tant que chimiste médicinal? Tu as dit que tu avais un côté altruiste, que tu voulais aider la société. Pour toi, ce serait quoi?
Comme disait Philippe tantôt, mon but, ce n'est pas de remplacer les opiates du jour au lendemain. Mais on a montré dans le labo, en tout cas chez les rats, qu'une co-administration des molécules que j'ai faites avec les opiates permet de diminuer les doses pour un effet analgésique similaire. Fait que les effets secondaires, par exemple, du côté opioïde seraient diminués.
Okay.
Puis les effets secondaires du côté neurotensine aussi seraient diminués. Évidemment, c'est pas encore une molécule parfaite, mais ça crée quand même une analgésie qui est très forte. Fait que peut-être, dans un futur 10 à 15 ans, comme tu disais, il va y avoir une partie de la douleur qui va être gérée par le système neurotensinergique.
Ce qui serait génial.
Ça serait cool.
Ça serait vraiment génial. C'est un beau but à poursuivre. On espère que tu vas y arriver.
Oui, c'est distant par contre. Mais...
distant, mais c'est un bon but quand même. C'est mieux dans 10-15 ans que jamais.
Ça sera mes descendants au pire qui vont.
C'est bon ça. Puis toi, Philippe, en tant que directeur de l'Institut, qu'est-ce que tu souhaites pour la thématique douleur pour les prochaines années?
Curieusement, je ne vais pas aller vers la pharmacologie. Je dirais qu'à l'heure actuelle, que je trouve un peu particulier, tu sais, par exemple, quand on veut évaluer quelqu'un qui fait de l'hypertension, on utilise un appareil pour mesurer la pression. On a quelque chose de physiologique pour mesurer l'effet que le patient ressent. Pour la douleur, qu'est-ce qu'on a? On a juste une petite échelle qui code de 1 à 10 et on demande au patient d'évaluer sa douleur. C'est un peu subjectif, c'est pas physiologique, ça manque de je dirais, il faut avoir quelque chose de physique qui nous permette de mesurer de façon objective la douleur que ressent le patient. Je pense que de développer ce type d'appareillage pour les médecins au quotidien...
Outils diagnostiques.
Oui, parce que derrière ça, c'est important de correctement évaluer la douleur parce que le traitement qu'on va donner au patient est adapté à la... intensité de la douleur que le patient ressent. Donc, de pouvoir évaluer la douleur de façon objective, je pense que ça, c'est quelque chose aussi à développer dans le futur, en dehors des traitements pharmacologiques.
Finalement, se débarrasser de la maudite échelle de 1 à 10 que je déteste répondre personnellement quand je vais chez le médecin. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment, ça me rend anxieuse.
Le chat, c'est à 5.
Ouais, mais...
au milieu.
Le problème, c'est que le monde essaie de passer plus vite, fait qu'ils disent 7-8.
Ouais,
ça fait passer plus vite à l'hôpital.
Mais oui, c'est un réel problème, je pense. Et puis, en dehors du traitement qui ne sera pas adapté aux patients lorsqu'on cote notre douleur de cette façon-là, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'évaluer de façon objective la douleur pour les patients.
Absolument. Mmh. C'est trois belles perspectives. Puis d'ailleurs, je vais rebondir sur ta perspective à toi, Jérôme, pour terminer. Je voulais rappeler aux gens, pendant qu'on a le micro, que le mardi prochain, le 2 mai, il y a un show super, vraiment, vraiment nice. Je suis allée, je ne sais pas si c'était l'année passée ou l'année d'avant, là, les années passent vite, mais je suis allée, c'est au Granada. C'est le show, vas-y, Jérôme.
Ouais, c'est comme toi pour la santé.
Ouais.
C'est un spectacle où on va présenter sur scène les co-créations de jeunes participants avec des artistes et des scientifiques sur scène. Donc, c'est vraiment un truc éclaté, vraiment flyé, mais super le fun. Puis cette année, la thématique, c'est la santé mentale. Donc, on va parler d'anxiété, de changement d'humeur,
une autre forme de douleur.
De sens, si on veut, là. Mais, puis c'est ça. Puis c'est sous forme de spectacle. C'est animé par Nathalie Platt, qui est psychologue aussi. Ça va être vraiment, vraiment le fun, je pense. Mardi prochain, 7h30 au Granada, puis ça coûte rien.
Ah oui, Nathalie Platt aussi, qui est, si je ne me trompe pas, chroniqueuse aussi.
Chroniqueuse au Devoir, qui est très impliquée dans le milieu aussi, ici à Sherbrooke, là.
C'est à quelle heure?
7h30.
7h30. demi, puis il faut acheter nos billets sur...
C'est gratuit.
C'est gratuit. Ben oui, c'est ça.
C'est mieux de s'inscrire là, sur le site web du Tremplin. Ben, c'est nos partenaires là-dedans. On organise ça avec le Tremplin 1630 de Sherbrooke. Mais ça coûte rien.
Puis je vois que tu as plusieurs affiches, donc ça affiche un petit peu partout, campus principal, campus de la santé.
Oui, il y a un événement Facebook aussi où les infos sont sur notre site web là, pour Neurosciences Sherbrooke. Là, si vous cherchez des détails, c'est là-dessus.
Excellent. Ben, merci beaucoup à vous trois. On est déjà à la fin de ce troisième épisode des Balados de l'IPS. On va revenir en mai pour un dernier épisode avant l'été, probablement sur la thématique du diabète. Donc, merci d'avoir été là, chers auditeurs. Puis merci à mes panélistes, Philippe Sarret, Michael Desgagnés et Jérôme Côté. Puis on se retrouve dans environ un mois pour le prochain épisode. Alors, bonne journée à tous.
Merci, Véronique.